Chapitre 13. Madame Burton Cox. « Eh bien !» s'exclama Madame Oliver en regagnant le salon après avoir raccompagné Célia à la porte. « Que pensez-vous de ma filleule ?»«
Elle ne manque pas de personnalité, » répondit Poirot. « C'est une jeune fille intéressante, pas n'importe qui. »«
Je vous l'avais bien dit, » se rengorgea Madame Oliver.
« J'aimerais que vous me précisiez un point d'histoire. »
« La concernant ?»«
Je vous avais prévenu, je ne la connais pas vraiment bien. Ce n'est pas à elle que je faisais allusion. »
« Parlez-moi de sa mère. »«
Ah, je vois. »«
Vous connaissiez sa mère ?»«
Oui, nous étions ensemble dans une sorte de pensionnat à Paris. À l'époque, les gens envoyaient les filles à Paris pour les terminer, comme on disait autrefois, » expliqua la romancière. « À entendre ça, on pense plus à un voyage vers le cimetière qu'à une introduction dans la bonne société. Que voulez-vous savoir à son sujet ?»«
Vous vous souvenez d'elle ?»«
De la jeune fille qu'elle était. Quelle impression vous a-t-elle laissée ?»
« Elle était belle, » répondit Madame Oliver.
« Je me souviens de ça. »
« Pas quand elle avait 13 ou 14 ans. Elle était carrément potelée à cet âge-là.
On l'était toutes, je pense, » ajouta-t-elle pensivement.
« Avait-elle une forte personnalité ?»«
J'ai du mal à m'en souvenir, parce que, voyez-vous, elle n'était ni ma seule amie, ni la meilleure.
J'entends par là que nous étions plusieurs, une petite meute, pourrait-on dire, des filles au goût plus ou moins voisin. On aimait le tennis, on aimait qu'on nous emmène à l'opéra. On s'ennuyait mortellement si on nous traînait au musée.
Je ne peux guère que vous donner une idée globale. Molly Preston Gray, c'est ainsi qu'on l'appelait.
Vous aviez des amoureux, toutes les deux?
Nous avons eu un ou deux béguins, il me semble. Pas pour des chanteurs de variété, bien sûr. Ça n'existait pas à l'époque.
Pour des acteurs, en général. Il y en avait un assez célèbre, un comédien de music-hall. Une des filles avait épinglé sa photo au-dessus de son lit, et Mademoiselle Girand, le professeur de français, s'opposa énergiquement à ce que cette photo reste là.
« Ce n'est pas convenable !» s'égosillait-elle, en français, bien entendu.
La fille ne lui avait pas dit que le comédien était son père.
« On s'amusait beaucoup, » ajouta Madame Oliver.
« Oui, on s'amusait souvent comme des folles. »
« Dites-moi donc un peu plus sur Molly ou Margaret Preston Gray. La jeune Célia vous la rappelle-t-elle ? »
« Non, je ne trouve pas.
Non, elle ne se ressemble pas. Je crois que Molly était plus sentimentale que cette jeune fille.
Elle avait une sœur jumelle, si j'ai bien compris.
Fréquentait-elle le même pensionnat ?
Non, elle aurait pu, puisqu'elle était du même âge, mais non. Je crois qu'elle était dans un tout autre genre d'établissement, en Angleterre.
Je n'en suis pas certaine. J'ai l'impression que cette sœur jumelle, Dolly, que je n'ai vu qu'une ou deux fois, de loin en loin, et qui, bien sûr, à l'époque, ressemblait trait pour trait à Molly, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore commencé à adopter des allures différentes, des coiffures différentes et tout, comme le font généralement les jumelles quand elles grandissent. J'ai l'impression que Molly était très attachée à elle, mais elle n'en parlait pas souvent. Je crois bien, à présent, je veux dire, pas à l'époque, qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait légèrement du côté de la sœur en question. Une fois ou deux, je me souviens, il y avait eu des allusions au fait qu'elle était malade ou partie suivre un traitement quelque part. Je me souviens m'être demandé une fois si elle n'était pas handicapée. Une de ses tantes l'avait emmenée un temps au bord de la mer pour qu'elle s'y rétablisse.
Madame Oliver secoua la tête.
Mais je ne me souviens pas vraiment. J'ai seulement l'impression que Molly était très attachée à sa sœur et qu'elle aurait aimé pouvoir la protéger d'une certaine manière.
Cela vous semble-t-il stupide ?
« Pas du tout, » assura Hercule Poirot. Je crois qu'à d'autres moments, elle n'avait pas envie de parler de Dolly. Elle parlait de sa mère et de son père. Elle les aimait bien, il me semble, d'un amour filial normal. Je me souviens qu'une fois, sa mère est venue à Paris et l'a emmenée en ville. Une femme agréable, pas particulièrement amusante ou belle ni rien, mais agréable, calme, gentille.
Je vois.
Rien qui, selon vous, puisse nous aider dans ce domaine.
Pas d'amoureux.
Nous n'avions pas tant d'amoureux que ça à l'époque, répondit Madame Oliver. Pas comme de nos jours, où la chose va de soi. Plus tard, une fois rentrés chez nous toutes les deux, nous nous sommes plus ou moins perdus de vue. Je crois que Molly est partie à l'étranger avec ses parents.
Je ne crois pas que ça ait été aux Indes.
Non, je ne crois pas. Il me semble que c'était ailleurs. Peut-être bien en Égypte. Je crois me rappeler que ses parents travaillaient dans les services diplomatiques. À un moment donné, ils étaient en Suède, puis dans un endroit comme les Bermudes ou les Antilles. Je crois que le père était gouverneur là-bas, ou quelque chose comme ça. Mais ce genre de détails, on ne s'en souvient pas vraiment. Molly s'était entichée du professeur de musique, et cela nous convenait parfaitement à l'une et l'autre. D'ailleurs, il me semble que ces amours-là devaient être beaucoup plus faciles à vivre que celles d'aujourd'hui n'en ont l'air. C'est-à-dire qu'on vouait une véritable adoration à l'objet de notre flamme. Il nous tardait d'arriver au jour où ces professeurs revenaient nous dispenser un cours. Eux, cela va sans dire, éprouvaient une parfaite indifférence à notre égard. Mais il n'empêche qu'on rêvait de la nuit, et je me souviens d'une espèce de rêve éveillé superbe, au cours duquel je soignais mon monsieur Adolphe adoré, atteint de choléra, et je crois que j'allais même jusqu'à lui transfuser mon sang. Ce qu'on peut être bête, sans parler des autres rêves qu'on nourrissait. Il fut un temps où j'étais tout à fait décidé à prendre le voile, et plus tard, je songeais à devenir infirmière. Mais dites-moi, tout ça est bel et bon. Seulement l'heure tourne, et nous n'allons pas tarder à recevoir Madame Burton Cox. Je me demande comment elle va réagir à votre présence. Poirot consulta sa montre. Nous devrions voir ça d'ici un petit instant. Y a-t-il autre chose dont nous devions discuter au préalable? Je crois que nous pourrions comparer nos notes à propos de quelques détails. Comme je le disais, il y a un ou deux points qui, selon moi, souffriraient quelques recherches. Des recherches éléphantines que vous mèneriez, dirons-nous, et le doublage d'un éléphant, ce qui me concerne. Quelle curieuse remarque, commenta Madame Oliver. Je vous ai dit que j'en avais terminé avec les éléphants. Certes, fit Poirot, mais peut-être les éléphants n'en ont-ils pas terminé avec vous. La sonnette de la porte d'entrée retentit à nouveau. Poirot et Madame Oliver échangèrent un regard. Courage, lança cette dernière. Allons-y. Il quitta une nouvelle fois la pièce. Poirot perçut l'écho des salutations qui s'échangeaient dehors, puis un instant plus tard, Madame Oliver regagna le salon, où elle fit entrer l'assez monumentale Madame Burton Cox. « Quel ravissant appartement vous avez là !» s'écria la visiteuse. « C'est si gentil à vous de me consacrer un peu de temps. Un temps très précieux, je n'en doute pas. Vous m'avez demandé de passer vous voir et... » Elle décocha un regard en biais à Hercule Poirot, tandis qu'une légère surprise se peignait brièvement sur ses traits. L'espace d'un instant, ses yeux allèrent du détective au piano demi-queue qui occupait l'embrasure d'une fenêtre. L'idée vint à Madame Oliver que Madame Burton Cox prenait Hercule Poirot pour un accordeur. Elle se hâta de dissiper le malentendu. « Il faut que je vous présente Monsieur Hercule Poirot, » annonça-t-elle. Poirot s'inclina sur la main de la grosse femme. « Il n'y a que lui, je pense, qui puisse vous apporter la moindre aide, » enchaîna la romancière. « Vous savez, à propos de ce que vous me demandiez l'autre jour concernant Celia Ravenscroft, ma filleule. « Ah oui, comme c'est aimable à vous de vous en être souvenu. J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'apporter quelques lumières sur ce qui s'est réellement passé. » « Je n'ai hélas pas récolté grand-chose, » répondit Madame Oliver. « C'est d'ailleurs pour cela, en fait, que j'ai demandé à Monsieur Poirot de vous rencontrer. » C'est un personnage extraordinaire, vous savez, pour tout ce qui a trait aux renseignements en général. Le meilleur de sa branche professionnelle, vraiment. Je serais incapable de dire à combien de mes amis il a prêté assistance, ou combien de... Ma foi, on peut vraiment parler d'énigmes. Il a élucidé. Or, l'affaire qui nous intéresse a vraiment été un drame d'une telle obscurité. C'est en effet peu dire, renchérit Madame Burton Cox, dont le regard demeurait passablement dubitatif. Madame Oliver désigna des fauteuils, puis proposa mondaine. « Que prendrez-vous, un verre de sherry ? Ce n'est plus l'heure du thé, bien sûr, à moins que vous ne préfériez un cocktail ?»« Oh, un doigt de sherry, c'est très aimable à vous. »« Monsieur Poirot ?»« La même chose, » répondit le détective. Madame Oliver ne put s'empêcher de lui savoir gré de ne pas avoir réclamé un sirop de cassis ou l'une de ses tisanes favorites. Elle sortit une carafe et trois verres. « J'ai déjà exposé à Monsieur Poirot les grandes lignes de l'enquête que vous souhaitez voir mener. »« Ah bon ?» fit Madame Burton Cox. Elle semblait passablement hésitante et moins sûre d'elle qu'à son ordinaire. « Ah, ces jeunes gens d'aujourd'hui, » préluda-t-elle à l'intention de Poirot, « nous donnent vraiment bien du souci. »« Ah, ces jeunes gens et leur insouciance foncière. » « Mon fils est le plus charmant des garçons, vraiment le plus charmant. C'est tout juste si on peut lui reprocher peut-être une certaine faiblesse de caractère. Dieu sait pourtant si nous avons fondé de grands espoirs sur sa réussite dans l'existence. Et il y a d'un autre côté cette jeune fille, une très charmante jeune fille. Madame Oliver vous a sans doute expliqué qu'il s'agit de sa filleule. Seulement, ma foi, bien sûr, sait-on jamais. J'entends par là que ses amitiés, que fut Foucade, serais-je plutôt tenté de dire, se nouent subitement, mais bien souvent ne durent pas. Ce sont ce qu'on appelait autrefois, voyez-vous, des amourettes. Aussi est-il très important d'en savoir, ne serait-ce qu'un peu plus en ce qui concerne les antécédents des gens. À quoi ressemblait la famille, vous comprenez? Oh, bien entendu, je sais que Célia est issue d'un très bon milieu, n'est-ce pas? Reste qu'il y a quand même eu ce drame. Suicide réciproque, me semble-t-il, quoique personne n'ait vraiment pu m'apporter la moindre précision quant à ce qui provoqua la chose, ou ce qui y mena, dirons-nous. Aucun de mes amis n'avait d'amis communs avec les Ravenscroft, si bien que j'ai beaucoup de mal à me faire une idée de ces gens. Je sais que Célia est une charmante jeune fille, n'est-ce pas? Mais une mère aimante souhaiterait en savoir nettement plus. D'après ce que m'a dit mon amie, Madame Oliver, il y a quelque chose que vous souhaitiez précisément savoir. En fait, vous vouliez savoir... Vous m'avez textuellement dit, enchaîna d'autorité Madame Oliver, que vous vouliez savoir qui, du père ou de la mère de Célia, avait tué l'autre. Est-ce que c'était Lady Ravenscroft qui avait tué son mari avant de se supprimer, ou le général Ravenscroft qui avait abattu sa femme avant de se faire justice? En effet, car j'ai le sentiment que cela change tout, affirma Madame Burton Cox. Oui, vraiment, j'ai le sentiment que cela change tout. Le distinguo est certes subtil, commenta Poirot. Quant au point de vue, pour intéressant qu'il soit, je n'en vois pas le bien fondé. Le ton n'avait rien de très engageant. C'est, voyez-vous, le climat affectif, dirons-nous, qui m'intéresse, se défendit assez platement Madame Burton Cox. Ce sont les désordres affectifs qui menèrent à ce drame qu'en mère attentive, je me dois de prendre en compte. Quand on se marie, reconnaissez-le, on a le devoir de penser aux enfants. Aux enfants à venir, j'entends. Aux problèmes soulevés par l'hérédité. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'hérédité joue un rôle bien plus important que l'environnement. Elle détermine une certaine tournure de caractère, certains risques très graves qu'on ne souhaite pas forcément courir. « Exact, déclara Poirot. C'est aux gens qui prennent ces risques qu'incombe la décision. Votre fils et la jeune personne en question, ce sera à eux de choisir. Oh, je sais, ce sera, comme vous dites, leur choix. Et hélas, pas le mien. Les parents n'ont de nos jours plus leur mot à dire, n'est-ce pas? Plus voix au chapitre, ni même de conseils à donner. Mais j'aimerais tout de même savoir de quoi ils retournaient. Oui, j'aimerais vraiment savoir. Si vous avez le sentiment que vous pourriez entamer la moindre enquête... Je suppose que c'est le terme à employer. Il serait bon que... Mais peut-être... Peut-être, après tout, ne suis-je qu'une mère poule, trop inquiète. Que je me tracasse trop pour mon cher fils. Seulement, mettez-vous à ma place. Les mères sont comme ça. Inclinant légèrement la tête de côté, elle poussa un petit hennissement qui se voulait un rire léger. Peut-être, reprit-elle, après avoir vidé son verre de sherry, peut-être pourrez-vous y repenser, et de mon côté, je vous ferai signe, moi aussi. À propos des points précis et des sujets qui me tracassent, elle consulta sa montre. Mon Dieu, oh mon Dieu, me voilà en retard pour mon autre rendez-vous. Il faut que j'y aille. Je suis vraiment désolé, ma chère Madame Oliver, de devoir m'enfuir si tôt, mais vous savez ce que c'est. J'ai eu toutes les peines du monde à trouver un taxi cet après-midi. Ils se contentaient de tourner la tête de l'autre côté les uns après les autres et de passer devant moi en trombe. Tout ça est tellement compliqué, n'est-ce pas? Madame Oliver, à votre adresse, je suppose. Je vous la donne, répondit Poirot. Il tira une carte de sa poche et la remit à la grosse femme. Ah, bien, bien, je vois. Monsieur Hercule Poirot. Vous êtes français, c'est ça?
Belge, rectifia Poirot.
Ah, oui, oui. Ah, la Belgique. Bien, bien, je comprends parfaitement. « Je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance. Cela me donne tellement d'espoir. Mon Dieu, il faut que je m'en aille très, très vite. » Ayant échangé une vigoureuse poignée de main avec Madame Oliver, elle fit le même adieu à Poirot, puis quitta la pièce, et la porte claqua dans l'entrée. « Eh bien, que pensez-vous de ça ?» lança Madame Oliver. Et vous, sentit Poirot?
Moins haut en couleur que nous ne nous y attendions.
Et puis elle s'est enfuie, répondit son ami.
Enfuie? Vous lui avez, Dieu sait pourquoi, fait peur.
En effet, constata Poirot, je crois que vous avez parfaitement bien saisi. Elle voulait se servir de moi pour extorquer des renseignements à Célia, une sorte de confidence, je ne sais quel secret dont elle soupçonne l'existence, mais elle ne veut pas d'une véritable enquête à proprement parler, n'est-ce pas?
Je crois que non, répondit Poirot.
C'est intéressant, cela.
Très intéressant.
Elle est riche, d'après vous?
J'opterai volontiers pour l'affirmative. Elle porte des vêtements de chez le bon faiseur. Elle habite un quartier élégant.
C'est une créature... On a du mal à la situer, au juste.
C'est une arriviste, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Une femme autoritaire. Elle siège dans un tas de comités. Elle n'a rien de louche, je pense. J'ai posé la question à quelques connaissances. Personne ne l'apprécie beaucoup.
Mais c'est le genre de battante qui se mêle de politique et tout ce qui s'ensuit.
Dans ce cas, qu'est-ce qui cloche chez elle?
Demanda Poirot.
Vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche? Ou tout simplement, comme moi, vous ne l'aimez pas?
Je crois qu'il y a quelque chose là-dessous qu'elle ne tient pas à voir surgir au grand jour, déclara Poirot.
Ah! Et vous allez découvrir de quoi il s'agit?
Naturellement, si je peux, confirma le détective.
Ce ne sera peut-être pas facile.
Elle bat soudain en retraite. En nous quittant de la sorte, elle battait en retraite.
Elle a pris peur, tout à coup, des questions que je risquais de lui poser.
Oui, c'est intéressant.
Il soupira.
Il va falloir, là aussi, remonter dans le passé.
Quoi, remonter à nouveau dans le passé?
Oui, et plus loin encore qu'on ne le pensait. Il nous faudra découvrir, quelque part dans ce passé, l'événement fondateur de l'affaire, celui sans lequel le drame d'Overcliff n'aurait jamais eu lieu.
Oui, il va falloir remonter dans le passé.
Ma foi, il en sera comme vous le souhaiterez, capitula Madame Oliver.
Or donc, qu'y a-t-il au programme dans l'immédiat?
Qu'est-ce que c'est que cette liste que vous avez là?
Au fil des comptes rendus de police, j'ai retenu un certain nombre de détails sur ce qui a été répertorié à Overcliff après le drame.
Vous vous souvenez sans doute de la découverte de 4 perruques.
Oui, répondit Madame Oliver, et vous avez même dit et répété que 4 perruques, cela faisait trop.
Le nombre semblait en effet un peu excessif, enchaîna le détective.
J'ai également recueilli certaines adresses utiles, celles d'un médecin qui pourrait nous apporter de l'aide.
Un médecin?
Vous parlez du médecin de famille?
Non, pas le médecin de famille.
Celui qui témoigna autrefois lors de l'enquête préliminaire concernant la mort d'un garçonnet assommé avant d'être poussé dans un bassin de jardin où il s'est noyé.
Poussé par la mère, vous voulez dire?
Poussé par la mère, poussé par une gamine plus âgée, poussé peut-être par une tierce personne qui se trouvait dans la maison à ce moment-là. Je sais dans quelle région d'Angleterre cela s'est passé, et grâce à des sources officielles auxquelles a pu remonter le superintendant Garroway, ainsi qu'à de miens amis qui travaillaient à l'époque dans la presse, j'ai pu obtenir quelques précisions susceptibles de nous ouvrir des horizons.
Et vous allez voir ce médecin?
Mais ce doit être un très vieil homme à présent.
Ce n'est pas lui que j'irai voir, mais son fils, lequel, en digne rejeton de son père, s'est lui aussi spécialisé dans les diverses formes de troubles mentaux. Je lui suis recommandé, et il se pourrait qu'il soit en mesure de me fournir d'utiles renseignements. Des investigations ont en outre été menées en leur temps sur les questions d'argent. Et c'est là un sujet de plus dont il nous incombera de nous préoccuper.
Des questions d'argent? Qu'entendez-vous par là?
Eh bien, il y a un certain nombre de points qu'il nous faut tirer au clair.
L'argent est, et a toujours été, le moteur de bien des crimes.
L'argent?
Qui a de l'argent à perdre si tel événement se produit?
Qui a de l'argent à gagner si tel autre se produit?
Cela, il faut le tirer au clair.
Ma foi, ça a dû être fait dans le cas des Ravenscroft.
Oui, et tout semblait parfaitement régulier.
Le mari et la femme avaient chacun de leur côté rédigé le testament classique, qui prévoit que la totalité des biens faisant l'objet de la communauté échoit aux survivants. Aucun des deux ne bénéficia cependant de ces dispositions puisqu'ils sont morts ensemble. Si bien que ceux qui, eux, tirèrent profit de cette double mort, ce sont leur fille aînée, Célia, et Edward, un enfant plus jeune qui, si j'ai bien compris, est aujourd'hui à l'université à l'étranger.
Ma foi, ça ne va guère nous aider.
Aucun des enfants n'était sur place, ni n'a pu être mêlé à ça d'une quelconque manière.
Oh non, bien sûr.
Voilà qui est tout à fait exact, et c'est bien pourquoi il nous faut aller plus loin.
Plus loin en arrière, plus loin en avant, plus loin de côté, pour découvrir s'il existe un quelconque mobile pécuniaire là-dessous qui soit, disons, significatif.
Ma foi, ne me demandez pas à moi d'enquêter dans ce domaine, répliqua Madame Oliver. S'il est un sujet auquel je n'ai jamais rien compris, c'est bien celui-là.
Non, je crois que le mieux pour vous serait, dirons-nous, de vous charger des perruques.
Des perruques?
Le scrupuleux rapport de police de l'époque mentionnait les fournisseurs des perruques, maisons fort réputées de coiffeurs et fabricants de postiches situés dans Bond Street. Par la suite, la boutique a fermé ses portes et l'affaire a été transplantée ailleurs. Cela dit, j'ai ici l'adresse des fondateurs qui exercent désormais leur talent à Cheltenham. Et je me suis dit que les réponses viendraient peut-être plus aisément si c'était une femme qui posait les questions.
Ah, fit Madame Oliver. Moi?
Oui, vous.
Bon, que voulez-vous que je fasse?
Que vous alliez à Cheltenham, où vous trouverez une certaine Madame Rosenthal. Une femme plus toute jeune, mais toujours mariée, et je crus comprendre, à un autre membre de la profession. Un coiffeur spécialisé dans les solutions postiches et assimilées aux problèmes de calvitie masculine.
Nom d'un petit bonhomme, fulmina Madame Oliver, je crois parfois rêver. Ces missions que vous me confiez, vous croyez que ces deux Figaro se souviendront de quelque chose?
Figaro ou pas, les éléphants ont de la mémoire, rappela Hercule Poirot.
Oh! Et vous, pendant ce temps-là, à quel genre d'éléphant allez-vous les soumettre vos questions?
À ce médecin dont vous parliez?
D'une part, oui.
Et de quoi pensez-vous qu'il se souviendra?
Pas de grand-chose, répondit Poirot.
Mais il se pourrait, je crois, qu'il ait entendu parler de certains accidents,
lequel a dû avoir un certain retentissement, vous savez. Il existe forcément des archives concernant l'enquête.
Vous parlez de la sœur jumelle?
Oui. Il y a eu, d'après ce que je me suis laissé dire, deux accidents au moins auxquels elle a été mêlée. Un, alors qu'elle était jeune mère et habitait l'Angleterre, du côté de Hatters Green, puis un autre plus tard, lorsqu'elle vivait en Malaisie. Dans les deux cas, l'accident se solda par la mort d'un enfant. Il se pourrait que j'apprenne là quelque chose sur...
Vous voulez dire qu'étant donné qu'elles étaient jumelles, il se pourrait que Molly, ma Molly, j'entends, ait également souffert d'un quelconque déséquilibre mental?
Je n'y crois pas une seconde. Elle n'était pas comme ça. C'était une fille affectueuse, aimante, très jolie, sensible, et... Oh, c'était quelqu'un de tellement bien.
Oui, c'est ce qu'il paraissait, en effet. Quelqu'un de très heureux, somme toute, n'est-ce pas?
Oui, Molly était quelqu'un d'heureux. Quelqu'un de très heureux.
Oh, bien sûr, je l'ai complètement perdue de vue sur le tard, je le sais. Elle vivait à l'étranger. Mais les très rares fois où j'ai reçu des lettres ou que je suis allé la voir, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était heureuse.
Et la sœur jumelle, vous ne la connaissiez vraiment pas?
Non. Les rares fois où j'ai vu Molly, il me semble que sa sœur était, disons, en toute franchise, qu'elle était internée dans je ne sais quel établissement, je crois. Elle n'avait pas assisté au mariage de Molly, pas même en qualité de demoiselle d'honneur.
Voilà un détail étrange en soi.
Je ne vois toujours pas ce que vous allez pouvoir tirer de ça.
Des renseignements,
voilà tout, répondit Poirot.